Chapitre 12. Les dilemmes. Pendant que le baronnet réfléchissait tristement sur la demande imprévue de Camilla, la sombre déesse de l'envie s'emparait des beaux traits d'Indiana. Indiana se plaignait hautement d'être claquemurée toute vive pendant qu'on permettait à sa cousine d'aller partout. Lin-Mer s'étant informé de ce qu'il y avait à voir ou à faire à Southampton, il apprit qu'il s'y trouvait grand nombre de sociétés agréables et de bons poissons. Il protesta qu'il s'y rendrait le lendemain matin. Indiana se mit à pleurer de chagrin et de colère, et Miss Margland affirme aussitôt qu'elle est la seule jeune personne du Hampshire qui n'ait jamais vu Southampton. Sir Hugh arrêta que Clermont et Miss Indiana feraient ce voyage ensemble. Camilla fut donc chargée de demander à M. Tyrold la permission pour Eugénia aussi bien que pour elle et d'engager M. Tyrold à passer le temps de leur absence à Clèves avec Lavinia. Le baronnet, de son propre mouvement, pria M. Orborn d'être de la partie de Southampton afin qu'Eugénia, disait-il, pût revoir ses leçons le matin de crainte de les oublier. Cependant, des projets concertés depuis si longtemps et tout à coup renversés, sa maison déserte à l'époque où tout devait se réunir pour la rendre plus agréable, tout cela pénétra Sir Hugh au point qu'il en tomba malade et se mit au lit. Mais quelques heures après, la vivacité de son humeur et sa bonté lui firent envisager les objets de son chagrin sous des couleurs moins lugubres. Il considéra qu'il aurait plus de temps pour préparer ce double mariage et qu'à l'aide de Lavinia qui restait, il pourrait les émerveiller tous par un nouveau choix d'habillement, de robes et de pompons, qui ne contrarierait point les oppositions éternelles de Miss Margland, puisqu'elle serait absente. Satisfait d'avoir ainsi changé son premier plan, il se leva le lendemain aussi gai qu'il était triste la veille. Sir Hugh n'était jamais heureux que du bonheur des autres. Mais cette bienveillance fut mise ce matin-là même à la plus rude épreuve. Car ayant dit à Lin-Mer qu'Eugénia, qu'il se proposait de lui donner pour compagne de ce petit voyage, devait l'être bientôt d'un plus long, le jeune homme, honteux d'accréditer cette idée dans le public en y paraissant avec Eugénia, déclara positivement qu'il n'irait pas à Southampton. Sir Hugh en resta glacé d'effroi. Il avait déjà rencontré 1000 obstacles à ses projets, mais dans celui de marier ses nièces et ses neveux, il avait employé tant de temps, il croyait avoir si bien prévu tout ce qui pouvait le faire échouer, qu'il croyait ne devoir plus s'attendre qu'à des félicitations. Lin-Mer ne prit pas le plus petit intérêt à l'effroi de son oncle. Il fit une pirouette sur le talon et dit qu'il allait à l'écurie pour voir s'il trouverait quelque chose de mieux que la misérable rosse qu'il avait montée le jour précédent. Sir Hugh était toujours plongé dans une sorte de stupeur, toujours plus douloureusement convaincu du peu de solidité de ses projets. Cependant, il lui restait encore une lueur d'espérance. Eugénia avait eu la meilleure éducation, elle était instruite et c'était encore un secret pour son cousin. Quand Lin-Mer apprendrait tout ce que son oncle avait préparé pour son bonheur, il était possible que son plan chéri reçût encore son exécution. Il ne s'agissait plus que de bien choisir le moment pour en faire part à son neveu. Il fit donc prier Clermont de venir le voir dans sa chambre. « Mon neveu, s'écria-t-il quand il fut entré, il faut que vous sachiez que j'ai toujours eu fort à cœur d'avoir un héritier de ma fortune. Mais cela ne m'a pas été donné, ce dont je suis assez fâché. Mais quel est l'homme qui peut prévoir et prévenir les événements? Je ne devrais peut-être pas vous l'avouer, vu la modicité de votre fortune, mais j'espère que vous n'attacherez pas trop de prise à la richesse. » Car qu'est-ce au fond que l'argent? Un vil métal. Et, comme je l'ai dit, puisque je n'avais pas d'héritier, il a fallu songer à me donner une héritière, et je l'ai fait élever comme on élève les petits garçons pour vous la donner en mariage. Pour la science, elle ne craint personne, et vous-même? Eh, monsieur, s'écria Lin-Mer, en achevant un long bâillement dont il avait accompagné le récit de son oncle, et qu'ai-je à faire d'épouser une fille élevée comme un garçon? Ce n'est pas mon goût, mon cher monsieur, je vous l'assure. Et puis, qu'a de commun une femme avec des études? En saura-t-elle mieux ordonner sa table? Et quand je voudrais manger, faudra-t-il que j'aille manger ailleurs? Ici s'évanouit tout à coup ce long respect dont Sir Hugh s'était pénétré pour Clermont Lin-Mer. Après toutes les peines qu'il s'était données pour en faire un savant, tant de recommandations et tant d'ordres tendant à ce but, l'entendre ainsi déprécier les études, leur préférer les soins les plus vulgaires de la vie, ceux que les vrais savants ne considèrent que comme des moyens d'exister, indignes de leur attention. Voir son neveu les placer dans ses idées au-dessus de la science. Ce trait le perdit totalement dans l'opinion de Sir Hugh, auquel il fut désormais impossible de le voir sans déplaisir et même sans une sorte de dédain. « Fort bien, Clermont, » dit-il après une pause, « je ne vous tiendrai pas plus longtemps, puisque, Dieu merci, je connais à présent votre pensée, que j'aurais voulu connaître plus tôt à cause de votre cousine, qu'on n'a que trop tourmentée pour parvenir à cette science dont vous faites si peu de cas. Maintenant, donc, que ce soit la fin, puisque je ne vois pas qu'il en résulte aucun bien. » Lynmer fut enchanté de la permission que lui donna Sir Hugh de se retirer, persuadé que l'oncle n'y songeait déjà plus et fort aise d'en être quitte à si bon marché. Si le baronnet avait été concerné de voir échouer son projet favori, il en fut en quelque sorte consolé par la diminution de son respect pour Clermont. En conséquence, il envoya vite chercher Eugénia. « Ma chère fille, lui dit-il, qui l'aurait cru ? Voici votre cousin Clermont, avec tout son grec et son latin, dont je ne sais pas un mot, et dont je commence à remercier le ciel. Voici Lynmer, dis-je, qui ne s'occupe désormais que de dîners et de soupers. C'est pourquoi je pense que vous ferez bien de ne plus songer à lui. Il ne vous mérite pas, et d'ailleurs, il ne désire pas de vous avoir pour sa femme. » Eugénia fut à la fois affligée et réjouie de cette nouvelle. Il était dur de se voir refuser. Non que son orgueil y prît un grand intérêt, cette passion était étrangère à son âme, mais sa délicatesse sentait vivement cette humiliation. Cependant, elle fut soulagée d'un grand fardeau qui n'avait cessé de peser cruellement sur son cœur depuis l'arrivée de son cousin. Chacun de ses mots, de ses regards, de ses gestes n'avait cessé d'être offensant pour elle. Et maintenant, sans blesser son respect pour le baronnet, que tant de motifs lui rendaient cher, ou sans s'armer contre elle-même des sentiments de sa propre générosité qui regrettait que son cousin fût privé d'un riche héritage, elle se voyait dégagée d'une alliance qui lui causait le plus grand effroi. Le docteur Marchmont avait passé la nuit à Beech Park sans être invité par Edgar, que le nom seul de Mrs. Burlington et l'idée d'une partie de plaisir faite sous ses auspices avaient chassé de Clèves et plongé dans une morne tristesse. « Je ne m'étonne pas, s'écria-t-il, que vous ayez l'esprit troublé. Mes observations de cette soirée m'en ont parfaitement indiqué la cause. Cette étrange affaire avec Sir Sedley Clarendel demande le plus rigide examen et la délibération la plus scrupuleuse. Cette jeune personne, au reste, comme je crois le voir, ne sera pas facile à remplacer. Quelle douceur, quel maintien, quels charmes attrayants! Mais la chose la plus essentielle en tout ceci, et qui certainement est en votre faveur, c'est qu'il est évident qu'elle vous aime. » Elle-même, s'écria Mandelbert en le serrant dans ses bras. « Ah, docteur Marchmont, pourrait-elle m'affliger, me braver de la sorte ?» Cependant, Jacob me le disait aussi, le bon et fidèle Jacob, cet excellent et vieux serviteur. « Quand vous êtes sorti, reprit le docteur Marchmont, je l'observais. Elle a pleuré. « Docteur Marchmont, et c'est pour moi qu'elle versait ses pleurs. Mon cher, mon respectable ami, cessez de m'offrir ce tableau. » Encore une fois, souffrez que je vous avertisse d'être circonspect. Que ses manières soient engageantes, ses regards séduisants, que son cœur soit à vous, nul doute. Mais il faut éprouver si ce cœur n'est point léger. Ah, docteur, quoiqu'à peine je puisse m'en rapporter à mes sens, je ne peux avoir le moindre doute du cœur de Camilla. Je sais qu'on a toujours dit qu'elle avait un peu d'étourderie, de précipitation, mais dans le cœur de Camilla, ceci tient à ses vertus. C'est l'effet de sa franchise qui n'admet ni soupçon ni réserve, et dans peu, croyez-moi, la justesse de son esprit la garantira de cette légèreté. Êtes-vous certain que sa raison puisse être assez forte pour opérer ce changement ? On voit tous les jours dans la jeunesse une promptitude de jugement qui donne des espérances, mais elle ne se réalise point. Le caractère, à cet âge, a souvent si peu de stabilité qu'il prend la forme de tout ce qui l'environne ou de ceux qu'il rencontre. Combien de mauvaises qualités peuvent être cachées sous le sourire de la jeunesse et de la beauté ? Ces femmes si décidées à 50 ans étaient la douceur, la timidité même, quand elles n'en avaient que 15. Quoi qu'il en soit, mon jeune ami, l'âge de Camilla s'accorde à merveille avec toutes vos vues et tous vos désirs. Il faut vous assurer si vos espérances sont bien ou mal placées. Mettez à part l'outrage que vous croyez en avoir reçu par une liaison que vous désapprouvez. Soyez vous-même de la partie qui se prépare pour Southampton, et là, vous pourrez, avec un peu d'observation, développer les replis les plus cachés de son cœur. Mon cher docteur, je ne manque ni de fermeté ni de courage, mais un plan tel que celui-ci demande quelque chose de plus. Il exige une conduite équivoque que je ne pourrais tenir. Non, je ne dois pas m'écarter d'une franchise que tous mes vœux tendent à trouver en elle. Votre intégrité, mon cher Mandelbert, vous fait confondre la prudence avec la perfidie. Si, dans cette démarche, vous aviez en effet d'autres vues que votre union, ce serait une infamie. Mais le fait est qu'il faut que son innocence soit prouvée d'une manière évidente ou que vous l'abandonniez. Et c'est pour cela que j'insiste pour la partie de Southampton. Eh bien, cher docteur, voulez-vous être de la partie ? Voulez-vous encore une fois me sacrifier votre temps, vos études, m'aider de vos conseils ? Oui, vous m'aiderez, quel que soit l'événement, à préparer, à diriger mes pensées et surtout ma conduite. Le docteur Marchmont consentit volontiers à l'accompagner à Southampton, puisque ce voyage pouvait être utile à son bonheur.